Éternel, fais-moi connaître tes voies et conduis-moi dans tes sentiers. Je ne sais pas si notre sœur Estelle a prié lorsqu'elle marche sur le chemin de Compostelle, cette prière, lorsqu'elle s'est perdue, qu'elle a perdu les flèches jaunes peut-être, et qu'elle a dit « Seigneur, enseigne-moi tes sentiers, où est la flèche jaune ?» Estelle est en séjour parmi nous, elle est missionnaire donc avec la WEC Espagne sur le chemin de Compostelle en Galice, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Espagne, dans la région de Saint-Jacques de Compostelle. Et lorsqu'elle vient chez elle, nous ne la laissons pas tranquille, nous lui demandons de nous exhorter. Et c'est donc ton tour pour la prédication du jour, Estelle, que le Seigneur nous bénisse ensemble à l'écoute de sa parole.
Bonjour aux gens là-haut. Alors, le chemin de Compostelle, j'ai quelques diapositives pour vous. Sur le chemin de Compostelle, on suit une flèche jaune, en effet, on suit une borne, et donc les fameux pèlerins du chemin de Compostelle avec leurs coquilles. Et donc, on suit une borne, tu peux continuer. Voilà. Et là, notamment, sur la photo, vous voyez, j'ai un ami qui est devant une borne, et il y a plein de pierres sur cette borne. Ces pierres représentent en fait des intentions de prière, des sujets pour lesquels les personnes marchent. Et on trouve beaucoup de ces bornes avec avec des tas de pierres. Parfois, il y a des hôtels improvisés. C'est sur le chemin, c'est par terre, des gens qui ont mis des photos de leurs bien-aimés qui correspondent à des intentions, des personnes qui sont soit malades ou qui sont décédées. Ces pèlerins marchent sur le chemin aussi avec en donnant un peu un signe de pourquoi ils font ce chemin. Et il y a beaucoup de prières sur le chemin. Les pèlerins, même pas chrétiens, pas religieux, vont souvent dans les villages d'État, ils s'arrêtent dans les messes, ils vont dans les églises. Et puis là, par exemple, c'est l'auberge de la Fuente del Pellegrino, l'auberge du pèlerin, où j'aide régulièrement. Le groupe qui était venu me visiter l'avait vu aussi. Donc en fait, c'est à 3 jours de marche avant Saint-Jacques. Les pèlerins viennent pour un café, pour se reposer, parfois pour rester dormir. Et on leur propose une intervention spirituelle, on leur propose un film. Et il y a un endroit dans le salon où les gens peuvent déposer un post-it avec aussi une intention de prière, un sujet de prière. Les pèlerins, la plupart qui ne restent pas, viennent, découvrent le lieu et puis ils mettent aussi leur sujet. Et l'après-midi, on récupère les post-it et on prie pour les personnes. Voilà, donc il y a beaucoup de prières sur le chemin de Compostelle. Alors, l'objet de leur foi est ils vont donc jusqu'à la Saint-Jacques, jusqu'à la cathédrale, et ils vont, tu peux mettre la suivante, ils vont aussi pour honorer, vénérer Jacques qui était l'apôtre, qui était un des apôtres les plus proches de Jésus. Donc dans le monde catholique et dans ce pèlerinage, Jacques est considéré comme un intercesseur le plus proche. Dieu et Jésus sont trop occupés, donc du coup on va aller vers Jacques pour présenter nos prières. Donc bien sûr, nos amis, leur conception de l'intercession est quelque peu erronée, parce qu'ils vont déposer à Jacques leurs prières, alors que nous savons à qui les déposer. Voilà, donc, et la Bible aussi, c'est un livre qui parle de prière. Jésus prie son Père, il y a des encouragements à prier sans cesse, à prier pour nos autorités. Les psaumes sont des livres, sont des prières. Et puis bien sûr, je veux vous parler d'un aspect particulier de la prière. S'il vous plaît, venez avec moi dans Luc 11. On va lire une partie de Luc 11 à partir du verset 5. Et moi, j'utilise la Bible, la version second. Ah, voilà. Donc, alors, le contexte de notre passage. Les disciples voient régulièrement Jésus prier. Et là, ils disent, avant le passage qu'a choisi de présenter Luc, les disciples disent à Jésus... apprends-nous, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur donne le Notre Père. Et maintenant, notre passage, il leur lit une parabole. Alors, je vous résume le verset 5 et 6. Alors, Josué et sa famille vivent dans une maison de Palestine, Et la plupart des maisons de Palestine ont une seule pièce qui sert de salon, cuisine, salle à manger, chambre et étable. Et voilà, donc pendant la journée, Moyen-Orient oblige, la culture, l'hospitalité, c'est important. Donc les portes seront ouvertes pour tous les visiteurs qui viendront pendant la journée. Mais la nuit, si les portes sont fermées, c'est un signe, hein, faut pas déranger. Comme partout ailleurs dans le monde, n'est-ce pas? Portes fermées, pas déranger. Voilà, donc Josué et sa famille, c'est la fin de la journée. Les animaux sont regroupés, les enfants sont excités, veulent encore jouer. Bébé veut pas dormir, ça va être dur ce soir. Bon, maintenant il est minuit. Enfin bébé dort, les animaux dorment, les enfants dorment. Tout est tranquille, dormir, enfin. Mais qui c'est qui frappe en plein milieu de la nuit comme ça? Demande Josué. Et du dehors, on entend une voix, celle de Bartimée, l'ami de Josué. Le texte dit « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Bartimée, qui frappe à la porte de Josué, vient de recevoir un visiteur à l'improviste. Et à l'époque, pour éviter la chaleur, les gens marchaient de nuit. Et puis nous qui avons marché 6 à 8 heures sur le chemin de Compostelle, à la fin, on a très faim. Donc notre visiteur, il a très faim, il est très fatigué, sauf qu'il est minuit. Les magasins sont fermés, le City Market, il est fermé, il n'y a plus rien dans le frigo. Donc voilà. Bartimée a un problème, il a un visiteur et il a un problème parce qu'il n'a plus rien et l'hospitalité veut qu'il accueille très bien son visiteur. Donc il a ce problème et il a 2 choix maintenant, Bartimée. Soit il se montre pas du tout un bon hôte et il envoie son invité avec une petite infusion nuit calme et puis demain on verra pour un petit déj. Ou alors, et là c'est quand même vraiment pas à faire dans la culture, ou alors il se montre audacieux et il sort pour aller demander à son ami 3 pains. Et Bartimée va choisir d'être audacieux. Et vous allez voir, dans tout ce que je développe, il y a une dimension de persévérance, de passion et d'insistance. Voilà, audacieux. Ben, en effet, la situation demande de l'audace quand même, hein, parce que il est minuit. Josué et sa famille sont couchés, et dans tous les pays, à moins d'une urgence vitale, tu ne déranges pas quelqu'un qui est couché à minuit. Voilà. Autre chose, à part l'heure, il y a l'attitude de Josué lui-même. Regardez avec moi dans le passage combien de fois il va dire non à Bartimée depuis l'intérieur de sa maison. Moi, j'ai compté 3 noms dans le verset 7. Alors, le verset 7 nous dit, le premier nom, il dit « ne m'importune pas ». Et littéralement, en grec, ça veut dire « ne me crée pas de problème ». Déjà, c'est un petit peu... Voilà. Le deuxième nom, il dit « la porte est déjà fermée ». Alors les portes à l'époque, ce n'était pas comme nos portes en aluminium et tout, c'était des bonnes portes en bois, bien lourdes, bien épaisses. Alors vous imaginez dans le calme du village, ouvrir une porte de bois, ça faisait quand même un peu du bruit. Voilà, donc la porte est fermée et puis il rajoute « mes enfants et moi, nous sommes au lit ». Donc comme je vous ai indiqué, la pièce unique est une chambre. Donc en fait tout le monde dort ensemble. Donc si Josué se lève pour aller pour son ami, il va réveiller tout le monde, il va ouvrir la porte, ça va être terrible. Donc il est en train de dire à son ami, écoute, désolé, je ne vais pas réveiller toute ma maisonnée, ça nous a pris 2 heures pour avoir tout le monde endormi. Donc non, tes baguettes, je suis désolée là. Voilà. Et le dernier nom, c'est « je ne puis me lever pour te donner des pains ». Voilà, plus clair, il n'y a pas. Non, c'est non. Josué n'a pas l'intention de donner du pain à son ami au nom de sa belle et magnifique amitié. Non, non, ça ne va pas avoir lieu. Pourtant, Jésus termine la parabole au verset 8 et il dit ceci. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, étant les pains bien sûr, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Il y a d'autres traductions qui disent, impudence, à cause de son impudence, à cause de son insistance, à cause de son effronterie, à cause de son sans-gêne. Donc voilà, mon Josué va se lever à cause du sans-gêne de Bartimée. Et il lui donnerait tout ce dont il a besoin, à cause de son importunité. Oui, Bartimée est important. Il est insistant. Il tambourine à la porte de Josué. Il s'en ira pas tant que Josué ne lui aura pas donné ses trois pas. Et finalement, Josué, que j'ai nommé ainsi, l'ami de la parabole, va répondre à sa demande. Il va donner les trois pains, et non seulement trois pains, le texte dit, il va donner tout ce dont il avait besoin. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à nous, aujourd'hui, 18 novembre 2018, à 11h? Jésus nous invite à intercéder, il nous invite aussi à demander. Demander avec audace, passion, persévérance. Intercéder. La parabole, donc elle met en scène en fait une personne, que j'ai nommée Bartimée, qui va vers une autre personne, Josué, pour présenter le besoin d'une troisième personne, l'ami de passage qui est fatigué et qui a faim. Et ça, c'est une image d'intercession, en fait. Quand je viens devant Dieu et que je me place entre Dieu et la personne qui a un besoin et que je prie pour elle, je suis en train d'intercéder. Et là, peut-être vous pensez à d'autres exemples d'intercession dans la Bible. Il y a notamment Abraham qui intercède pour la ville de Sodome et Gomorre en disant à Dieu, s'il te plaît, si tu trouves ne serait-ce que 10 personnes justes, ne détruit, voilà, il négocie, mais il intercède. Il se place entre Dieu et le village, la ville de Sodome et Gomorre. Il y a aussi Moïse qui va régulièrement, le peuple d'Israël se rebelle contre Dieu et Moïse intercède en disant, s'il te plaît, ne détruis pas ce peuple. Oui, je sais, il est vraiment rebelle. Ne le détruis pas malgré la punition qu'il mérite. Et notre exemple le plus suprême, c'est bien sûr Jésus qui s'est placé entre toi et moi et Dieu, entre notre besoin d'être sauvé et Dieu. Il a aussi intercédé pour toi et moi dans une magnifique prière dans Jean 17 quand il est dit « Père, je te prie pour ceux qui croiront en toi ». Donc à distance, à des milliers d'années, Jésus a prié pour nous et il continue à intercéder pour nous. Le texte dit dans Romains 8, 34, que Jésus est à la droite du Père, il intercède, il est comme un avocat, il est continuellement à présenter nos besoins devant Dieu. Vous me connaissez un petit peu, mais bien sûr, il y a des choses que vous ne savez pas, et moi, dans mon témoignage, je suis venue à Dieu. Dans ma famille, il y avait plein de choses pas chouettes, il y a eu des meurtres, des adultères, on a volé les juifs, donc l'ennemi avait vraiment des portes d'entrée dans ma famille. Moi, à l'université, je rencontre une amie qui est venue au Seigneur. Elle me témoigne, elle m'emmène dans son église. C'était des gentils, c'était vraiment chouette, des personnes gentilles, c'était agréable. Mais je n'étais pas touchée, j'étais vraiment pas touchée par la prédication. Parce qu'en fait, moi, je me sentais quelqu'un de bien. J'allais faire des études d'assistante sociale, donc j'étais quelqu'un de bien. Vraiment, les prédications me passaient là. Je comprenais des choses, mais je percevais pas ce qu'on voulait me dire. Et puis, à un moment, je fais un choix, je prends une décision dans ma vie qui m'amène loin, très loin, dans une situation de désespoir. Et pour la première fois, je réalise vraiment que je suis éloignée de Dieu. Je réalise que je ne sais pas où je vais si je meurs, dans quel camp j'irai. Et en fait, avant ma conversion, quelques jours avant, il y avait vraiment un tiraillement, une bataille spirituelle. Soit je choisis de continuer la décision que j'ai prise, ou soit je vais à Dieu. Et bien sûr, je suis là parce que je suis venue à Dieu. Mais vous savez quoi, grâce à Dieu, mais j'ai réellement conscience qu'il y a eu des intercessions de la part de l'Église de l'époque pour que je comprenne et que j'accueille ce que Dieu avait pour moi. Donc ton histoire est bien sûr différente de la mienne, mais ensemble on a un point commun. C'est que quelqu'un dans ta famille ou tes amis, au niveau professionnel, au niveau voisinage, il y a quelqu'un qui a intercédé pour que toi, un jour, tu puisses venir à Dieu.
Amen.
Voilà, et autour de nous, on a des personnes en souffrance, chrétiennes ou pas chrétiennes, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent un sens à leur vie, et notre pays, nos gouvernements, qui ont besoin aussi de prendre des décisions justes. Bref, on a des personnes, des situations autour de nous qui ont besoin d'intercession. Quand j'intercède pour quelqu'un, je me mets à la place de l'autre, je m'identifie. Bartimée, il n'a pas faim, mais il a un visiteur qui est affamé, qui est fatigué. Et Bartimée va aller voir son ami, il agit comme un affamé, comme pour le besoin de son ami. Quand j'intercède pour quelqu'un, je m'identifie, ce n'est pas mon besoin, mais je vais le faire avec la même passion que si c'était mon problème et je le présente à Dieu. Aussi, quand j'intercède, il y a l'identification, il y a aussi le fait que ça coûte, il y a du sacrifice. Ouh là là, personne n'aime le mot sacrifice. Hein, c'est... Et pourtant, par amour, on est prêt à faire plein de choses. Certainement, toi, quand tu te rappelles avec ton jeune enfant, tu as passé des nuits sans sommeil pour ton petit qui souffrait, qui était malade. Tu as sacrifié des heures de sommeil pour être proche de ton petit. Ou alors, tu as décidé avec ton conjoint de te serrer la ceinture, de faire des choix financiers pour pouvoir payer les études de tes enfants, des sacrifices. Et puis peut-être aussi, ton conjoint veut que tu viennes à une soirée tellement ennuyeuse que tu n'as pas envie, mais par amour pour ton conjoint, tu vas l'accompagner à cette soirée. Voilà, il y a différents sacrifices qu'on fait dans notre vie. Jésus en a fait un le plus ultime, il s'est donné pour nous par amour. Voilà, et c'est vrai, quand j'intercède, ça va coûter du temps, de l'énergie. Peut-être vos prières vont pas, vous n'allez pas voir le résultat tout de suite. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis convertie. Comme vous, je prie pour certains bien-aimés et pour l'instant, je ne vois pas de résultat. Ça coûte de persévérer. Voilà, persévérance, sacrifice, intercession. Jésus nous demande aussi nous invite à demander. Alors souvent, on fait une différence dans nos prières, dans la demande, dans nos prières. Il y a la prière de louange, où on honore Dieu, qui est considérée comme belle, noble, gratuite. Et puis il y a la prière de demande pour moi, pour les autres, qui peut être vue comme intéressée, personnelle, moins spirituelle. Et dans ce passage, Jésus est en train de dire, demandez, osez demander pour les petites, les grandes choses, avec confiance, soyez audacieux. Pourquoi demander ? Pourquoi je peux demander ? Parce que Dieu écoute et répond. Et le verset 9, Jésus fait une déclaration officielle. Il dit, et moi je vous dis, c'est un peu comme s'il disait, je t'assure, je m'engage. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Vous cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ça continue. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. J'expliquerai un petit peu plus ce passage, mais pour l'instant, restons avec cette idée que Dieu nous promet qu'il va écouter et qu'il va répondre si on cherche, si on demande, si on frappe. Je peux demander aussi parce que Dieu est un Père et qui plus est généreux. L'ami de la parabole, Josué, il a donné les trois pains parce qu'il était fatigué d'entendre Bartimée. Puis c'est vrai qu'il y avait une notion de honte aussi. S'il ne donnait pas les trois pains, les gens du village allaient lui faire remarquer. Puis bon, il ne voulait pas réveiller tout le monde. Donc par lassitude, pour faire taire l'important, il a donné les trois pains. Un ami peut aider par affection. Et en effet, il peut aussi nous aider par lassitude, par fatigue. Parce que bon, allez, sinon, voilà. Il y a une parabole qui est en parallèle avec ce texte, toujours de Luc, et c'est dans le chapitre 18, ça s'appelle « Le juge inique ». Une veuve vient régulièrement embêter un juge pour qu'il lui fasse justice. Et dans le texte, comme dans cette parabole, le juge finalement accède à la demande de la veuve parce qu'il ne peut plus la voir, il est fatigué. Ces deux paraboles sont en opposition avec le caractère de Dieu parce que Dieu n'est pas comme le juge unique ou comme ce Josué qui est fatigué et puis allez, je te donne des baguettes. Non, Jésus répond aux prières, non pas parce qu'il est fatigué, mais ni parce qu'on lui met la pression, il nous répond parce qu'il est un père. Et le verset 11 nous dit, justement, il donne cette illustration de l'image du père. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il lui demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? L'amitié peut se terminer, pas la paternité. Les parents peuvent divorcer, certains d'entre vous, moi mes parents sont divorcés. Les parents peuvent divorcer, mais ils divorcent jamais de leurs enfants. Mon père, même si je fais les pires bêtises, hein, les idées les pires du siècle, je sais qu'il va m'aimer, qu'il va rester à mes côtés. Dieu, il a choisi d'être notre père. Il ne va pas cesser d'être notre père, même si on fait les pires bêtises de l'année ou du siècle. Et un père humain, même imparfait, il va écouter son enfant. Il va à peu près répondre aux besoins de son enfant. Par amour, il va donner le meilleur, ce qu'il pense être le meilleur pour son enfant. Et je pense que comme moi, vous avez eu vos parents qui vous ont dit parfois non à des choses. Ils vous ont refusé des choses pour notre bien. Et on n'a pas cessé de les considérer comme nos pères. Et même avec la maturité en grandissant, on a réalisé que qu'il le faisait pour notre bien. Et Dieu, il est bien plus que ce Père humain. Il écoute d'autant plus nos besoins et il les répond en donnant, dit le verset 13, de bonnes choses, au-delà de ce que je peux imaginer. Il y a un texte dans Jacques 1 qui dit « Toute grâce excellente, tout don parfait, descend d'en haut du Père des Lumières. » Excellent, don parfait, ça vient de Dieu. Et les bonnes choses, ce n'est pas toujours ce que nous voulons, mais les bonnes choses, c'est vraiment avec le filtre de Dieu dont un autre texte dit que son plan est parfait, bon et agréable. Et peut-être que la réponse de Dieu un jour, ça va être « Attends » ou « Non ». Il ne va pas cesser d'être notre Père pour autant parce que, voilà, avec parfois distance et réflexion, on réalise que c'est pour notre bien qu'il nous dit non, par amour pour nous. Et Luc, en fait, Luc qui a écrit cet évangile, a aussi écrit les Actes des Apôtres, qui parle beaucoup du Saint-Esprit. Bah, Luc il met une emphase dans le verset 13 en disant que c'est qu'il va vous donner de bonnes choses, il va vous donner le Saint-Esprit, qui est vraiment la source par excellence de toutes les bonnes choses dans la vie. Voilà, alors je peux demander à Dieu parce qu'il m'écoute, il m'entend, il est un Père généreux. C'est logique, mais c'est bien de se le rappeler. Je peux aussi demander parce que je suis enfant. Je suis fille et fils. Un enfant n'a pas de problème, n'a pas de honte pour venir vers papa, maman. Papa, tu peux m'acheter une paire de baskets ? Papa, je viens de casser mes lunettes. Papa, j'ai cassé mon iPod. Papa, papa. Et il vient à papa avec confiance que papa va répondre. Alors, peut-être pas oui ou pas tout de suite, mais papa va répondre. L'enfant vient avec une certaine dépendance et puis voilà, j'ai pas d'argent de poche, donc papa va me donner. Alors, Dieu, est-ce que je vois Dieu comme un père vers qui je peux dire papa, j'ai besoin ? Est-ce que je me vois comme son enfant ? Pourquoi j'hésiterais à demander des choses à mon Père éternel ? Je nous rappelle que notre Père éternel, il est le Dieu de l'or, de l'argent, c'est celui qui a tout créé. Donc on peut demander à papa beaucoup de choses. Comment demander ? Donc Jésus nous invite à intercéder, à demander, mais il y a une façon de demander. Et en fait, cette façon, il y a une idée de comme notre Bartimée qui frappe, de passion, d'audace et de persévérance. Et on revient au verset 9. Le verset 9 et 10 qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Donc demander, il y a cette idée d'humilité, de conscience de mes besoins. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez, non seulement tu demandes, mais en plus tu agis pour que ton besoin soit couvert. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors tu demandes, tu agis, tu persévères, tu frappes à la porte jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte, jusqu'à ce que Dieu te réponde. Car qui est la promesse de quiconque demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu, il est prêt à me donner, mais est-ce que moi je suis prêt à demander et à attendre une réponse ? Jacques dit dans le chapitre 4, verset 2, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » C'est assez troublant, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas arriver dans notre vie parce que nous ne demandons pas. Et la prière, ce n'est pas un jeu, une petite prière, on va voir si ça fonctionne. Non, c'est sérieux. Dieu est là, Dieu écoute. Et si moi, je ne désire pas suffisamment ce que je demande, si je désire pas et que je persévère pas, alors ce que je demande, c'est pas grand-chose finalement. J'ai pas cette passion finalement. Mon problème, c'est pas un si gros problème puisque je persévère même pas. Et Dieu ne va pas répondre à ces prières tièdes, on va voir si en passant. Non, il va répondre aux prières passionnées. La passion que je peux avoir d'être affamée de sa présence, de me dire, bah alors là, si tu agis pas... Voilà, c'est pas possible, j'ai besoin de toi, Dieu, il n'y a que toi qui peux répondre. Dieu est comme un enfant, papa, si tu me donnes, si tu m'achètes pas ça, je peux pas. Voilà, cette dépendance. Dieu le Père, il est aussi dans cette envie de relation avec nous, de père à enfant. Et alors, intercède, demande. Pourquoi ? Parce que quand tu demandes, il se passe des choses. L'homme de la parabole, mon fameux Bartimée, il est venu les mains vides, j'ai besoin de 3 pains. Il repart avec 3 pains plus tout ce dont il avait besoin. Il a été audacieux, il a été persévérant et ça a changé sa situation, surtout celle de son invité. La prière, ça change les situations, ça ouvre des portes. Et moi, je me suis intéressée à un réveil qui s'est passé dans les Hébrides. Si tu peux mettre la diapo. Pardon, je suis en train de... Ah, ben, ça, c'était ça, Jacques. Voilà. Il y a un livre qui a été écrit, Revival in the Hebrides. Donc, c'est Réveil dans les Hébrides, écrit par Monsieur Duncan Campbell. Alors, les Hébrides, si comme moi vous hésitez un petit peu, c'est ces îles au-dessus près de l'Écosse, qui appartiennent à l'Écosse, en fait. Et alors, Duncan Campbell, c'était un évangéliste écossais. Il a mené une campagne d'évangélisation en 1949 dans ces îles. Il est invité pour 2 semaines, il est resté 2 ans. C'est ce monsieur. Tout commence avec 2 dames qui ont 84 et 82 ans, Petty et Christine Smith. Leur santé ne leur permettait pas d'assister à l'église. L'une d'elles était sourde, l'autre avait le dos courbé par l'arthrose. Mais ces deux dames avaient un fardeau. Leur église était petite, beaucoup de personnes âgées, et elles ne vont plus à l'église, mais leur maison devient leur chambre haute. Et elle décide de mettre 2 jours par semaine à part pour prier Dieu, pour présenter à Dieu le fardeau. Tu vois, notre église, elle est petite et il y a des personnes âgées. Le livre dit que des fois, elle commençait à 22h et puis elle se relevait vers 4h du matin. Ça, c'est de la passion quand même. Hein. Et un soir, il y a une des dames, Dieu donne à une de ces personnes une vision. Elle voit l'église remplie de jeunes. Et elle voit aussi un évangéliste qui prie. Pour faire l'histoire courte, sachez que cet évangéliste, c'est ce monsieur Duncan Campbell qui va venir. Voilà. Quelques anecdotes du livre qui m'ont pas mal touchée. Une nuit, il y a des jeunes qui sont dans une discothèque. Et la présence de Dieu remplit la discothèque et ces jeunes... Tous, un par un, ils disent « qu'est-ce qu'on fait là ?» Ils sortent de la discothèque, ils ont en eux une faim, une soif qui leur fait dire « faut qu'on trouve une église ». Tous ensemble, ils sortent dans les rues, ils arrivent dans une église où, comme par hasard, c'est Duncan Campbell qui prêche. Et ce soir-là, beaucoup d'entre eux se convertissent et beaucoup d'entre eux seront les futurs responsables de l'église. Une autre histoire. C'est une soirée d'évangélisation, il est déjà 4h du matin dans la soirée. La réunion est en train de se terminer et il y a quelqu'un qui vient demander à monsieur Duncan Campbell de venir au commissariat de police. Et pourquoi ? Écoutez, il y a environ 400 personnes là, autour du commissariat, il faut que vous veniez. Ah bon, d'accord. Le commissariat en fait est près de la maison des deux dames qui prient. Et en fait, il y a des gens de toute l'île qui ont été attirés, elles ne savent pas pourquoi, comment, mais elles ont été attirées à venir près du commissariat de police avec une faim spirituelle, avec quelque chose qu'elles n'arrivent pas à préciser. Duncan arrive et, près du commissariat et là, il n'a pas besoin de prêcher parce qu'il y a 400 personnes qui sont en larmes, qui crient, qui demandent le pardon de Dieu. Et Duncan, quand il a écrit son livre, il a dit « bon, le réveil a duré 3 ans dans ces îles hybrides ». Et il a expliqué qu'environ, il y a un peu plus de 75% des personnes qui se sont converties pendant ce réveil, qui l'ont fait avant d'être entrées dans une église, avant d'entendre une prédication. Elles ont été convaincues de péché et de l'amour de Dieu par la seule présence de Dieu dans le lieu. Tout ça parce que 2 dames de 82 et 84 ans ont commencé à prier et à demander avec ferveur, persévérance et passion que Dieu fasse quelque chose pour leur église. Un dernier exemple, c'est plus proche de nous, et plus proche physiquement et en termes de temps, c'était la RDA et la RFA. Donc il y a le mur de Berlin qui sépare la ville en deux depuis en 61, je crois que tu as une photo, voilà. Et en fait, ça, c'est le symbole de l'Europe qui est divisée par le rideau de fer, n'est-ce pas ? Je pense que tu as une autre, voilà. Oui. Et alors à partir de 1982, il y a un mouvement de jeunes, d'étudiants qui se constituent pour parler de la paix, pour parler politique. Et il y a un pasteur qui propose d'ouvrir son église pour ces rencontres et aussi pour que ce soit des rencontres de prière pour la paix. Tous les lundis, à partir de 1982, dans cette église de Leipzig, c'est dans l'est de l'Allemagne, des gens vont se rassembler. 7 ans plus tard, on est octobre 89, il y a une marche pacifique qui s'organise, il y a 70 000 manifestants qui décident de, spontanément de venir marcher, et ils se rassemblent d'abord à l'église, et ensemble ils vont défiler dans les rues de Leipzig. Et alors le gouvernement est à cran, il y a les agents de la Stasi, de la police qui sont là, ils sont armés, et par miracle, il n'y a pas de représailles. Alors que quelques jours avant, il y avait eu un débordement et il y avait eu des tirs. Donc voilà, les gens marchent sympathiquement, pacifiquement. Les autorités sont dépassées par le mouvement. Il y a en plus les médias internationaux qui couvrent l'événement. Un mois après, donc le 9 novembre 89, le mur de Berlin tombe et les journaux de l'époque, journaux séculiers, ont parlé de la puissance de la prière qui a fait vaciller le gouvernement Honecker. 7 ans de prière, 82-89, à Leipzig pour que le mur de Berlin tombe. Alors voilà, soyons des papes, des persévérants, audacieux, passionnés, ou des PAP dans la prière. Parce qu'autour de nous, il y a des familles, amis, voisins, collègues, personnes chrétiennes ou pas, qui ont besoin que toi et moi, on vienne devant Dieu, qu'on se tienne devant Dieu, qu'on frappe à la porte de Dieu jusqu'à ce qu'il réponde, avec passion, sacrifice, audace, intercédons. Mais aussi, demande pour toi, pour tes besoins, avec persévérance, passion, audace, parce que Dieu te répondra. Pas parce qu'il sera fatigué de tes prières, parce que tu lui mets la pression, non, il le fera parce qu'il est ce papa bon, parce qu'il t'écoute, il veut pour toi le meilleur, et au-delà de ce que j'imagine, pour toi, pour ton quartier de la BL, pour ta région, l'Alsace, pour ton pays, pour notre pays, pour peut-être d'autres pays, comme la Haïti, voilà, je nous encourage à être des PAP dans la prière.
Merci Estelle, et que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier ensemble maintenant pour ce que nous venons d'entendre. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses de nous des hommes et des femmes de dialogue avec toi. Nous ayons envie de te parler. Et Seigneur, avant tout, je veux confesser que moi le premier, nous n'avons pas vu cette passion dans nos cœurs. Et nous avons besoin de la retrouver. Nous avons besoin de retrouver, d'être persévérant, d'être audacieux devant toi, non pas pour te manquer de respect, mais comme des enfants devant leur père. Seigneur, nous te prions de bénir Estelle sur le chemin et de nous bénir, nous, sur notre chemin. Et que nous soyons sans cesse en communication avec toi. Que nous te fassions part de nos besoins. Et comme nous l'avons entendu dans ce récit, que nous te fassions part des besoins des autres. Non pas que tu ne les connaisses pas, mais que tu as voulu, parce que tu as voulu, que nous nous placions comme intercesseurs devant toi pour les autres. C'est ta volonté. Nous te prions que cela soit notre cas, notre activité. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Amen. Amen.
Alors, nous avons choisi un autre chant qui parle de marcher. C'est un chant que nous connaissons relativement bien, qui s'appelle « Quel bonheur de marcher avec lui ». Et c'est pareil, Estelle, c'est pour toi que tu vas te souvenir quand tu auras mal aux pieds, que c'est un bonheur de marcher avec Dieu.